Recherchons la paix avec tous, la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. On passe au chapitre, au verset 15 du chapitre 12. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Alors, il y a toute une série d'avertissements qui avaient commencé plus tôt et qui continuent ici avec cette très belle expression « Ne vous privez pas de la grâce de Dieu ». C'est vraiment quelqu'un qui vient nous dire il y a une formidable grâce de Dieu, un amour que vous ne méritez pas, un pardon qui sont disponibles, mais si vous les refusez, si vous ne venez pas les chercher, ça restera sans effet et sans bénéfice pour vous. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Il est dit que la grâce est venue par Jésus-Christ et la loi est venue par Moïse. Il va continuer sur ce thème dans le reste du chapitre, mais j'aimerais que l'on s'arrête un peu sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de racines d'amertume qui se développent dans nos cœurs. Le Deutéronome disait déjà qu'il ne devait pas y avoir de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. L'absinthe, c'était une boisson amère. Dans Éphésiens 4, il nous met en garde contre toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Et il implique que l'amertume, si on la laisse développer dans nos cœurs, elle va produire des rejetons. Je ne sais pas si vous êtes déjà occupé d'une pelouse. Là, on vient de mettre un bout de pelouse artificielle chez nous. On n'a pas ces problèmes avec cette pelouse. Mais une vraie pelouse, il y a des mauvaises plantes, des mauvaises herbes qui se greffent dessus. Et notamment les pissenlits. Les pissenlits, c'est dommage, on devrait faire des pelouses de pissenlits. Ce serait plus facile que faire des pelouses d'herbe. Parce qu'elles se reproduisent à une vitesse incroyable. C'est même le symbole de la répartition du savoir par Larousse. On souffle sur une fleur de pissenlit et toutes les petites racines sont projetées avec un petit parachute et se retrouvent dispersées au vent. Et ce qu'il nous dit ici, c'est que l'amertume, c'est comme une mauvaise herbe qui se reproduit très facilement. Et il faut veiller, de la même façon qu'on doit veiller lorsqu'on a une pelouse, on surveille les pissenlits. Alors on peut soit les arracher superficiellement avec la tondeuse, mais le problème, c'est que ça va, au contraire, quand on les touche avec la tondeuse, ça va faire voler toutes les petites graines qui sont suspendues, un petit parachute qui fait ces jolies petites fleurs blanches ou ces petits nuages de graines. Et au contraire, ça va les planter, ça va les multiplier. On sait que pour les défaire, vraiment s'en protéger, il faut creuser en profondeur et retirer la racine. Et ces plantes ont aussi une tendance fâcheuse à s'enraciner très profondément. Donc c'est beaucoup de travail. Mais Dieu nous dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble parce que plusieurs vont en être infectés. Beaucoup vont être infectés par votre amertume. De la même façon que l'herbe n'est pas contagieuse, le pissenlit est très contagieux, je viens de le rappeler, et l'amertume, c'est de la même façon, c'est très contagieux. Si vous commencez à exprimer votre animosité, vos ressentiments, ça va être contagieux dans l'église, ça va être contagieux dans un groupe. Par contre, si vous essayez d'être positif ou montrer votre foi en Dieu, ça va être plus difficile. Mais c'est la bonne attitude à avoir. Si l'amertume est quelque chose qui est un problème pour vous, je vais vous recommander un livre. Mais qu'est-ce que c'est que l'amertume ? C'est face au mal qui vous est proposé ou infligé, c'est soit de pardonner, soit de donner libre cours à l'amertume dans votre cœur. Soit on pardonne, soit on est amer. L'amertume, elle va nous faire du mal. Le livre auquel je pense, c'est « Comment être libéré de toute amertume » par un dénommé Jim Wilson. Je sais qu'en anglais, c'est disponible, tout le PDF est disponible. Si vous faites Jim Wilson Bitterness, c'est le mot pour l'amertume en anglais, Bitterness, vous pouvez avoir accès à tout son ouvrage. Je suis pas sûr, mais vous pouvez essayer en français. Je sais que ça a été traduit, qu'à une époque, c'était disponible à la librairie évangélique. Et c'est un livre très riche. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur ce problème. Je voudrais juste faire quelques remarques tirées de son ouvrage. Et il contraste justement la culpabilité et l'amertume. Et il dit « La culpabilité, c'est ce que nous ressentons lorsque nous péchons. L'amertume, c'est ce que nous ressentons lorsque d'autres personnes ont péché contre nous. Si nous péchons, nous savons qu'il faut confesser à Dieu et demander pardon à la personne que nous avons offensée. Et l'amertume, par contre, c'est quelque chose qui est imaginé ou ressenti. Et on peut même éprouver de l'amertume pour un péché imaginaire qui n'a jamais été commis contre nous. On entend une personne parler avec une autre personne et quand on arrive, la personne s'interrompt. Et du coup, là, on est sûr qu'elle disait plein de mauvaises choses sur nous. Mais si ça se trouve, ça n'avait rien à voir avec vous. C'était simplement une conversation privée que vous avez interrompue en vous approchant. Et c'est très intéressant de s'imaginer des péchés et de commencer à ressentir de l'amertume contre cette personne. Et après d'avoir ces lunettes qui faussent notre perception des choses dans notre relation avec cette personne. On est souvent plus touché par des personnes qui pêchent contre nous si elles sont proches de nous. Il y a des dictateurs, il y a des djihadistes dans le monde qui font des choses terribles. On peut éprouver de l'horreur, du dégoût devant ces choses, mais pas de la culpabilité. Peut-être qu'on devrait des fois, parce qu'on pourrait peut-être faire quelque chose politiquement ou en aidant des ONG ou quelque chose, mais on ne va pas non plus éprouver de l'amertume. C'est avec les membres de notre famille, c'est avec nos amis, les personnes dans l'Église, et même parfois avec Dieu. Cette expression de racine, elle nous fait penser à la puissance des végétaux et la puissance d'une racine. Si vous regardez bien, quand vous sortez de cette salle, on a sur la terrasse quelques plantes et notamment un grand yucca sur la droite qui se trouve dans un pot qui est en fait une poubelle en noir, bien épaisse, bien costaud. Mais la racine de ce yucca a fait éclater cette poubelle. Elle tient encore debout, mais on doit la changer ou faire quelque chose rapidement. Et on voit des fois des arbres plantés dans les rues, sous les trottoirs, qui font soulever les dalles. La racine a une puissance potentielle. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que le fruit produit est en relation directe avec la racine. Les racines d'un pommier vont finalement produire des pommes. Des racines amères vont donner des fruits amers. Il disait lui aussi que une personne amère dans une église va inoculer beaucoup de monde. Passer cette amertume, causer du trouble, des rancœurs, des ressentiments et infecter beaucoup de monde. Il pense qu'il y a deux solutions. Soit on garde l'amertume au fond du cœur, elle va continuer à nous rendre malades, elle va continuer à produire des éléments chimiques destructeurs. Ça va nous causer un ulcère gastrique. Ça va marquer notre visage. On va avoir des rides, on va avoir des marques sur notre corps de ce qui est au-dedans de nous. Et si on a cette amertume, soit on la garde et ça nous fait du mal, soit on va faire une autre chose qui est dangereuse, c'est de la laisser sortir, de la laisser déborder et d'étendre le mal autour de nous. La solution de Dieu, c'est comme pour le pissenlit sur la pelouse, c'est de déterrer, d'enlever la racine, de s'en débarrasser, de la jeter et la laisser trouver les tas d'ordures en dehors de la ville ou l'usine d'incinération. Ce serait une meilleure solution quant à la racine, peut-être pas au niveau de la santé publique. Mais c'est là où on a besoin de l'aide de Dieu. C'est pas facile de pardonner, surtout lorsque les gens nous ont causé vraiment du tort. Il faut l'aide de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. C'est pour ça la relation entre se priver de la grâce de Dieu et laisser pousser des racines d'amertume. Dieu nous donne sa grâce, nous sommes des pécheurs, il nous pardonne et il nous dit dans sa parole que, à plus forte raison, nous devons pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est quand on a bien reçu la grâce de Dieu qu'on peut pardonner les autres. Il faut avoir été pardonné pour savoir pardonner. Dieu nous pardonne. Et il veut qu'à la lumière de ce pardon qu'il nous offre dans sa grâce, nous ayons le cœur et la capacité qu'il nous donne à pardonner les autres. Alors peut-être vous dites, mais je ne sais pas si j'ai vraiment de l'amertume. C'est vrai que j'ai été blessé par un tel. Un test simple, c'est que l'amertume, elle va se rappeler de tous les détails. La mémoire va être entraînée à revoir et à revoir. On va ruminer, on va ressasser, on va repasser les détails du tort qui nous a été fait, de la conversation qui nous a blessés. Et en général, on ne rabâche pas les bonnes choses que les autres nous ont faites. Les bonnes choses, on les oublie. C'est terrible lorsque un couple est près de divorcer, qui sont devant le juge ou l'avoué qui fait avancer les choses juridiquement. après que des essais de conciliation aient été abandonnés, les gens qui divorcent ne sont pas capables de se rappeler un seul bon moment vécu ensemble. Tout est noir, tout est mauvais. Les lunettes de l'amertume ont été mises sur le nez. Et il n'y a plus rien de bien. Et cet auteur dit qu'il faut réaliser que l'amertume, c'est un péché. Parce que Dieu nous ordonne de pardonner. Et il faut vraiment que l'on confesse ce péché. Donc c'est pour ça que je vous ai donné ce petit test. Est-ce que je me rappelle de tous les détails avec cette personne dans ce qu'elle m'a dit, qu'elle m'a fait? Tu vas pas le croire. J'étais là. Et voilà-t-y pas qu'elle m'a dit ça. Et on se répète, et on le répète autour de nous. Et c'est comme ça que ça devient contagieux. La seule chose qui nous permet de nous libérer de l'amertume, c'est de confesser ça comme un péché et de laisser la mort et la résurrection de Jésus-Christ en venir à bout. Il y a un autre auteur assez connu, Amy Carmichael, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Si, if » en anglais. Elle dit « Un verre rempli à ras-bord d'eau douce ne peut pas renverser une seule goutte d'eau saumâtre, même si on le bouscule brutalement. S'il est plein d'eau douce et qu'on le bouscule, qu'est-ce qui va sortir du verre ? De l'eau douce. Si on le bouscule plus brutalement, ce verre ou la personne qui tient le verre, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir encore davantage d'eau douce qui va en sortir. Si vous êtes rempli de douceur et de lumière, vous allez déborder de douceur et de lumière. Si vous êtes rempli de miel, c'est du miel qui va sortir. Si c'est du vinaigre qui sort, qu'est-ce qui va, ça va prouver? Cela va prouver qu'il y avait du vinaigre, de l'amertume dans mon cœur. Et donc, bien réaliser de ne pas se priver de la grâce de Dieu pour pouvoir recevoir l'amour de Dieu et le communiquer aux autres. Et lorsque des gens qui ont de l'amertume dans le cœur sont pardonnés par vous, ça peut avoir un effet sur leur cœur. Vous pouvez les interpeller par un comportement différent de celui auquel ils sont habitués dans leur vie, peut-être autour de leur entourage, mais c'est une façon de témoigner, de pardonner, encore une fois. Il continue avec des avertissements. Veillez à ce que aucun d'entre vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Donc ça continue cette idée de rester dans la grâce de Dieu, de chercher la paix avec tous les hommes, de rechercher la sainteté avec Dieu, ne pas faire preuve d'immoralité sexuelle ou de se montrer profanateur comme Ésaü. Le mot qui est traduit par l'immoralité sexuelle, c'est « ne soyez pas un prostitué ». C'est un mot qui n'existe pas en français. On parle des prostituées au féminin. Là aussi, c'est du sexisme, parce qu'on sait qu'il y a des hommes qui se vendent sexuellement. Mais c'est le même mot que le mot qui nous a donné la pornographie. Et donc, ne vous adonnez pas à la pornographie, c'est un mal qui ronge notre société, qui pose beaucoup de problèmes dans l'éducation des jeunes, Avant, quand j'étais enfant, pour avoir accès à la pornographie, il fallait s'organiser, il fallait se mettre en bande. Il y avait peut-être un grand frère qui pouvait aller acheter un Playboy au supermarché. Maintenant, n'importe quel enfant qui a accès à Internet, si ses parents n'ont pas mis un programme de protection, il peut voir n'importe quoi. Alors, il y a cet aspect donc de l'immoralité sexuelle. C'est quelque chose que Dieu proscrit parce que c'est pas sa volonté. Encore une fois, la sexualité, c'est une chose superbe. C'est une chose que Dieu a créée qui est belle. J'ai déjà partagé plusieurs fois que je pense qu'en fait, cette attirance sexuelle, cette union, cette fusion dans le couple qui est le seul domaine, qui est le seul cadre où la sexualité est bénie par Dieu, il nous l'a donné comme une préfiguration de l'intimité qu'il attend d'avoir avec nous. Qu'il aura avec nous lorsque nous serons l'épouse de l'agneau. C'est un peu bizarre pour des hommes de penser qu'ils vont être l'épouse. Parce que nous, on est machos et on n'est pas l'épouse. Mais cette sexualité, c'est une chose qui... C'est son idée, c'est pas l'idée du diable. Le diable n'est pas assez intelligent pour inventer la sexualité. Par contre, il est très fort pour la détourner de son dessein original, qui est non seulement l'amour que l'on reçoit dans un couple, la tendresse, le plaisir physique, qui est aussi quelque chose qui a été imaginé, créé par Dieu, et qui assure la perpétuation de l'espèce. Si c'était une corvée que d'avoir des enfants, on serait sans doute pas là. Par contre, ce qui est terrible, c'est que le diable en a fait quelque chose de tordu, de pervers, qui est source de beaucoup de malheurs, beaucoup de maladies même, de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alors il y a cet aspect physique dans l'immoralité sexuelle ou dans ce mot, mais cette infidélité, il y a aussi la notion d'infidélité spirituelle. Dieu reprochait souvent à Israël, son peuple, de s'être prostitué ou d'avoir été infidèle, de s'être livré à une espèce de pornographie en adoptant l'idolâtrie d'autres dieux que le vrai Dieu. Donc, il nous dit de ne pas être débauché, que ce soit dans le sens physique ou aussi dans le sens d'infidélité spirituelle. Et il utilise aussi le mot d'être profanateur comme Ésaü. Le mot profane, ça veut dire en latin, c'est le mot qui traduit le mot grec du texte original, ça veut dire être devant ou contre le temple, c'est s'opposer quelque part à Dieu. Être un profanateur ou profane, des fois on utilise le mot des profanités, c'est des paroles malsaines, mais ça c'est simplement de ne pas être intéressé par les choses de Dieu, et c'est là qu'il utilise l'exemple d'Ésaü. Ésaü, il en est longuement question dans la Genèse. On peut s'y tourner dans la Genèse 25, les versets 28 à 34. Il y avait Ésaü et Jacob qui étaient les enfants d'Isaac, donc chapitre 25, là on voit ses parents Isaac et Jacob, et il y avait plutôt Isaac et Rebecca qui ont eu les deux enfants, Jacob et Ésaü, et il est dit que, sans rentrer dans toute la richesse des deux personnages, même au niveau de la foi, Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Et puis il est dit, tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. » Il avait un plat de lentilles. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü, d'ailleurs, le nom d'Édom. Les Édomites, ça veut dire « rouge ». C'était les descendants de Ésaü. Et Jacob, qui était quelqu'un de très, très malin, au point que c'était une faute en lui, il avait dit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse ». Et Ésaü répondit « Je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob dit « Jure-le-moi d'abord ». Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse était réservé à l'aîné d'une famille dans cette époque, à cette époque parmi les Juifs. Il y avait un double de l'héritage et dans la lignée d'Abraham, on savait qu'ils allaient, cette lignée allait conduire par le droit d'aînesse à Jésus. Et donc, parce qu'il était fatigué, qu'il n'en pouvait plus et qu'il aimait bien, bien manger, il a été pris à sacrifier l'honneur, la chose fantastique d'être dans la lignée du Messie. Il a cédé ça pour un plat de lentilles. Si vous faites des mots croisés, un autre mot pour les lentilles, c'est le mot « erz ». ERS, c'est pour vous aider dans vos mots croisés. Parce qu'on va faire Jacob le vendit à son frère, hop, trois lettres, ERS. Mais sérieusement, c'est une façon de mépriser les choses spirituelles. Il accordait plus d'importance aux choses bassement matérielles. Nancy fait une très bonne soupe de lentilles et j'aime bien la soupe de lentilles. On en mange généralement à la montagne, en octobre. Mais il n'y a pas de quoi préférer un plat de lentilles aux choses spirituelles. Et malheureusement, il est dit que plus tard, quand il a voulu hériter de la bénédiction, il a été rejeté car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec des larmes. Dans la Genèse, on ne va pas lire tout le passage, 27, versets 1 à 39, il est clairement indiqué qu'une fois que le droit d'aînesse avait été passé à Jacob, même si Ésaü voulait le retrouver, et là encore une fois, ce n'était pas pour des choses spirituelles, c'était parce qu'il avait réalisé qu'il avait perdu un héritage qui aurait été plus important, et c'était pour dire que il y a un moment où il est trop tard. Nos décisions, on peut souvent en changer. Mais il y a un moment qui arrive où nos choix sont finaux. Il y a des décisions irréversibles. On n'aime pas ça parce qu'on aime bien changer. On est inconstant. On aimerait bien revenir des fois sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait, sur les choix qu'on a pris. Et en fait, il a pas, c'était pas de la vraie repentance qui consiste à changer d'avis parce qu'on a réalisé qu'on allait vers le péché et qu'on veut s'éloigner du péché et qu'on délibérément on change de direction. C'était plus du regret de s'être fait avoir par son frère. C'était plus le regret de s'être fait prendre. Et il nous indique clairement qu'il arrive un moment où c'est trop tard. Il nous dit aujourd'hui, ne vendez pas les choses spirituelles pour des choses matérielles ou des choses qui ne sont pas éternelles. Certains peuvent renoncer à leur foi parce que leur travail leur demande trop de temps et ils veulent avancer dans la hiérarchie de leur entreprise et donc ils n'ont plus le temps de venir au culte de dimanche, ils doivent aller rencontrer des clients, ils doivent aller faire du golf pour rencontrer des clients aux États-Unis ou aller jouer à la pétanque ici, peu importe. Ça prend trop d'importance et ça éloigne de Dieu. D'autres peuvent le faire pour des relations amoureuses. On s'attache à une personne qui n'est pas chrétienne et on est prêt à s'éloigner de Dieu pour ne pas s'éloigner de cette personne, en espérant qu'un jour cette personne se convertisse. Mais il faut être vigilant et ne pas se leurrer. Est-ce que c'est Dieu qui m'invite à poursuivre la relation ou pas ? Parce qu'il y a un moment où on aura rejeté la foi en Christ, où on se sera tellement éloigné de lui qu'on ne lui appartiendra pas. Alors c'est vrai que si on lui appartient, il nous promet de ne pas nous laisser tomber, mais pourquoi flirter avec le danger de cette façon ? Il continue ensuite et le reste du chapitre fait une comparaison entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Tonio l'avait bien rappelé, il faut se rappeler à qui, pour qui est écrit cette lettre. C'était pour des Juifs qui s'étaient convertis à la foi en Christ, mais qui, sous la pression des persécutions, voulaient renoncer à Christ et revenir à leur ancienne façon de louer Dieu à l'ancienne alliance. Et là encore, il nous parle de la loi, verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de terre, de peur ». Verset 22 « Au contraire, vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, vous vous êtes approché de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. » On va lire jusqu'à la fin. Faites attention, encore une fois, un autre avertissement. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut du ciel ? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « une fois » indiquent encore bien que les choses qui appartenaient au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte ou un service qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Alors c'est un passage un peu compliqué quand on le lit comme ça. Il faut revenir un peu dans l'Ancien Testament, mais il fait un contraste entre deux montagnes. Et ces deux montagnes, c'est le mont Sinaï et la montagne de Sion. Alors bien sûr, c'est le Sinaï, on sait que c'est un endroit géographique. On peut s'y rendre aujourd'hui, visiter un monastère où on a trouvé des copies, des manuscrits qui datent des premiers temps de la Bible. Et puis le mont Sion. Sion, c'est en fait la colline de Jérusalem où habitait David, mais c'est aussi la nouvelle cité de Dieu. Il en est question dans l'Apocalypse, la nouvelle cité dont Dieu est l'architecte. Mais il fait un contraste entre, en fait, entre la loi et la grâce. Il rappelle que c'était quelque chose d'inquiétant dans l'Exode, lorsque Dieu avait voulu donner à Moïse les 10 commandements, la loi, il avait dit « Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu leur interdiras de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. » Exode 19, 12. « On ne portera pas la main sur cette personne, mais on la lapidera ou bien on la percera de flèches. » On ne voulait même pas poser la main. « Il ne restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentira, ceux-ci monteront sur la montagne. » Deutéronome 4, vous vous êtes approchés, vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était embrasée par le feu jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, du brouillard. Deutéronome 5, 23, après avoir entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était embrasée, vous êtes approchés avec moi, avec tous vos chefs de tribus et vos anciens, et vous avez dit, voici que l'Éternel, notre Dieu, nous fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme et que celui-ci peut rester vivant. C'était Moïse. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit resté vivant? Approche-toi, écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, et toi tu nous rediras ce que l'Éternel notre Dieu t'aura dit, nous écouterons et nous le ferons. Il y avait une telle peur de Dieu, de sa puissance destructrice, que les gens ne voulaient pas s'approcher de lui. Il leur avait même interdit de s'approcher de la montagne où il allait révéler le mont Sinaï, où il allait révéler la loi à Moïse. Et il disait à Moïse, toi tu y vas, hein, mais nous on reste là. Personne n'a pu faire ça. Et au point que il est dit que le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Ça, c'est l'ancienne alliance. C'est la religion, entre guillemets, à laquelle les Juifs persécutés, qui étaient devenus chrétiens, voulaient revenir. Ils étaient prêt à revenir à un Dieu distant, un Dieu qui ne pardonnait pas, qui donnait la loi. On sait que la loi, elle n'a pas été donnée pour nous rendre bons, acceptables aux yeux de Dieu. Elle est là pour nous montrer que nous avons besoin d'aide, que nous sommes des pécheurs. C'est un test qui nous montre que nous n'y arrivons pas tout seuls. Certains vous disent, est-ce que tu iras au paradis? Oui, je respecte les 10 commandements. Personne n'a jamais pu, personne ne pourra jamais respecter les 10 commandements, sauf une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. La loi, son but, c'est pas de nous sauver, c'est de nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur. En nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Et verset 22, au contraire, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades, les dizaines, de, les centaines, de, les milliers, les myriades, c'est 10 000 en grec, c'est 10 000 fois 10 000, c'est des centaines de millions d'anges. Verset 23, c'est il y a la fête dans le ciel, il y a l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Ça, c'est ceux qui sont déjà morts et qui sont sauvés par leur foi en Jésus-Christ, soit qu'il l'ait connu, soit qu'il l'ait anticipé. Et surtout, il y a la présence de Jésus qui est le médiateur de cette nouvelle alliance. Moïse était le médiateur de l'ancienne alliance. Et dans cette cité, cette montagne de Sion, il y a la présence du sang purificateur qui porte un meilleur message que celui d'Abel. Le sang d'Abel, on en a parlé au chapitre 11, il appelait la vengeance. Caïn avait commis un meurtre, il l'avait tué, et le sang d'Abel appelait la vengeance. Et ce qui est important, c'est que l'ancienne alliance, donc, elle est représentée par le mont Sinaï. La nouvelle alliance, elle est représentée par le mont Zion ou Sion. C'est très important de vous positionner. Est-ce que dans ma relation avec Dieu, je suis sous le coup de la loi, c'est encore moi qui essaye de plaire à Dieu par mes bonnes œuvres, ou est-ce que je suis sur le mont Sion et que je reçois sa grâce, quels que soient mes péchés? Tout à l'heure, on parlait de l'avortement. Peut-être parmi nous, y a-t-il des personnes qui ont eu recours à l'avortement, peut-être sans savoir que c'était moralement, d'après la Bible, quelque chose qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Mais il y a du pardon, même pour ça. Vous confessez votre péché. Il n'y a pas de péché trop grand pour que Dieu ne les pardonne pas. Le seul péché impardonnable, c'est de le rejeter, lui. C'est de dire, non, j'ai pas besoin de ton aide, je vais y arriver tout seul, je peux plaire à ton papa, tu vas voir. Et de ne pas reconnaître une absolue incapacité à plaire à Dieu. Et pour lui plaire, il faut déjà commencer par la foi en Jésus-Christ, la foi au sacrifice qu'il a fait. Et puis, finalement, ce verset 25 à 29, c'est un dernier avertissement. Une vérité comprise n'est pas suffisante par elle-même. Il faut qu'elle soit mise en pratique. On peut faire une théorie de la portance des ailes d'un avion, voir qu'avec la forme de l'avion, il va se créer une dépression au-dessus de l'aile qui va faire que la poussée de l'air va soutenir l'avion, et que plus on va aller vite, plus cette aspiration en quelque sorte va être forte. Mais ça, c'est théorique, c'est intellectuel. Par contre, si je vais à l'aéroport de Nice, que je mets ma ceinture de sécurité dans un avion et que je fais l'expérience du décollage, là, j'aurai mis en pratique la théorie, la vérité de la théorie de la portance des ailes. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle. Ceux qui ont repoussé Moïse, qui les avertissait, ils n'ont pas échappé au châtiment. Ça, c'est une référence aussi dans des hommes qui ont rejeté Dieu. Qui ont été libérés par Dieu, se sont fait un veau d'or, et quelques semaines après ce passage, ce grand miracle de Dieu, ils disaient que c'était ce veau d'or qui les avait fait traverser la mer Rouge, la mer des joncs. Ils se livraient à l'idolâtrie. Et il y a eu beaucoup de moments dans l'ancienne alliance où Dieu a dû supprimer. Et il y a cette peur qui est attachée. Nous, si on repousse, si nous nous détournons de Jésus-Christ, à combien plus forte raison nous allons ne pas pouvoir échapper au châtiment final à la fin des temps. Il parle d'un grand cataclysme, d'un tremblement de terre. Ici à Nice, on a, Dieu merci, on n'a pas eu de très grands tremblements de terre. On a des tremblements de terre dont on parle le lendemain, tout le monde ne les a pas ressentis, et c'est très bien comme ça. Mais un tremblement de terre destructeur, c'est quelque chose de terrible. Et à la fin des temps, il va y avoir une destruction des choses matérielles, et par opposition, les choses spirituelles, vos relations avec Christ, les relations avec vos frères et sœurs, la connaissance, la parole, ces choses qui sont éternelles, elles vont durer. Ce sera des choses auxquelles vous pourrez vous attacher. Ce sera comme un royaume inébranlable. Mais c'est toujours par la grâce. Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et piété. Pour vivre la vie chrétienne, encore une fois, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas y échapper. Nous devons la recevoir et nous devons l'offrir aux autres. Et puis, il a cette formule qui peut être terrifiante. Car notre Dieu est un Dieu, un feu dévorant. Ça vient de Deutéronome, lorsqu'il était question de Deutéronome 4, 24, de la puissance de Dieu pour punir le péché. L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Deutéronome 9, 3, reconnais aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, c'est lui qui les humiliera devant toi et tu les déposséderas, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Ça, c'était pour la conquête de la terre promise face à des ennemis impies qui ne reconnaissaient pas le Dieu véritable. Et quelqu'un a dit, en fait, le feu, il a deux effets. Il y a un effet de destruction qui conduit à l'extinction. On a vu des incendies terribles au Portugal, maintenant en Espagne, où plus de 60 personnes sont mortes par les flammes du feu qui les a coincées. Mais il y a un bon effet du feu qui est l'effet de purification et qui conduit à la permanence. Et Dieu veut nous purifier. Les épreuves, c'est pas un feu pour nous détruire, c'est pour nous purifier. Et on a dit justement que le feu détruit ce qu'il ne peut pas purifier, mais il purifie ce qu'il ne peut pas détruire. Nous pouvons être reconnaissants à Dieu que si nous sommes venus à lui par Jésus-Christ, il va nous assurer la permanence, la vie éternelle. Il y aura peut-être des moments d'épreuve, mais c'est pour nous purifier, pas pour nous détruire. Donc nous pouvons remercier Dieu de toutes ces vérités, et là encore, on aurait pu passer un mois à les étudier. J'ai pris le parti de les voir rapidement. Je vous invite à les relire, à réfléchir. Si vous avez une Bible avec quelques versets, des références, vous pouvez revenir au passage de l'Ancien Testament. Mais remercions Dieu pour sa parole. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu utilises des images fortes pour nous interpeller, Seigneur. Tu vois que notre vieille nature de pécheur, héritée de nos ancêtres Adam et Ève, elle a la vie tenace. Elle veut toujours nous éloigner de toi, elle veut toujours nous détourner des choses essentielles, de la foi, d'agir pour toi, de penser comme toi. Seigneur, continue de nous toucher. Aide-nous à recevoir la grâce infinie que tu nous offres, Seigneur. On peut être comme des gens qui meurent de soif alors qu'il y a un torrent abondant d'eau pure qui coule. Aide-nous à ne jamais être dans cette situation, Seigneur. Aide-nous à te rendre un culte, un service, à vivre nos vies pour que ce soit agréable à toi, Seigneur. Que nous te montrions une sainte révérence, un respect, une crainte même, et toujours dans la piété, dans le souci de ce qui te plaît, et non pas de ce qui est à la mode, de ce qui est autour de nous. Seigneur, aide-nous à être des gens qui pensons avec toi, indépendamment des pressions du monde, Seigneur. Tu nous dis de ne pas nous conformer au monde qui nous entoure, mais d'avoir l'intelligence renouvelée, Seigneur, par toi. Sois béni, Seigneur, parce que tu le fais dans nos vies. Donne-nous d'être des témoins de ton amour, de ta grâce, non pas pour juger et mépriser de façon méprisante, de dire du mal de ceux qui ne te connaissent pas encore, mais de reconnaître que nous étions comme eux, mais que tu nous as touchés par ta grâce et que nous voulons que eux aussi puissent te connaître et être au bénéfice de ton immense amour. Sois béni, Seigneur. Nous le prions par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.